Carmen. Compositeur français, Alexandre César Léopold Bizet, dit Georges Bizet, naît à Paris en 1838 et meurt à 37 ans en 1875. Sa brève existence est traversée de succès reconnus et d'échecs douloureux. De sa famille, il hérite la passion de la musique. Son père, Adolphe Armand Bizet, coiffeur, est également chanteur. Sa mère, née Aimée Delsarte, est pianiste. Son oncle, François Delsarte, enseigne le chant dans l'Europe entière, où ses cours fameux sont fort courus, car il lie dans une approche novatrice, danse, expression corporelle et lyrique. Georges Bizet est admis au Conservatoire de Paris, où il développe ses talents d'interprète, notamment de pianiste, et se voit décerner plusieurs premiers prix. En 1856, le célèbre Jacques Offenbach organise un concours d'opérette pour son théâtre des Bouffes parisiens. Bizet en est lauréat avec le Docteur Miracle. L'année suivante, sa cantate Clovis et Clotilde lui permet de remporter le prix de Rome. Il séjourne donc 3 ans à la Villa Médicis. De retour à Paris, il donne en 1863 Les Pêcheurs de Perles, qui reçoit un accueil favorable, puis La Jolie Fille de Perth en 1866 d'après un roman de Walter Scott, qui passe inaperçu. En 1869, Bizet épouse Geneviève Alévy. Une Arlésienne en 1872 est un échec lors de sa création, puis remaniée, un succès des concerts Pas de Loup à la fin de la même année. L'opéra comique lui commande une œuvre. Bizet s'installe à Bougival pour y écrire Carmen, créée le 3 mars 1875 et dont l'apparent échec l'affecte profondément. Mais Bizet, déjà poitrinaire, succombe à une crise cardiaque le 3 juin 1875, sans savoir qu'il vient de donner l'une des œuvres les plus populaires de tous les temps. Carmen est l'opéra de Georges Bizet le plus célèbre. Fraîchement reçu lors de la première le 3 mars 1875 à l'Opéra Comique, car le thème est jugé licencieux, offensant pour les bonnes mœurs et la musique peu appréciée des critiques, il est appelé pourtant à devenir l'une des œuvres les plus populaires et les plus jouées. Abandonné après 3 représentations à Paris, le succès débute à l'Opéra de Vienne un peu plus tard. Une légende veut que cet accueil peu favorable ait précipité le trépas de Georges Bizet, sans preuve véritable à avancer. L'auteur, déjà de constitution fragile, succombe à la suite d'un bain pris fin mai 1875 dans la Seine, à Bougival. Carmen est un opéra comique, terme qui ne désigne pas la nature de l'œuvre. Son sujet est puisé dans la nouvelle éponyme de Prosper Mérimée, publiée en 1847. Le livret est le fruit du travail commun des 2 librettistes les plus célèbres à l'époque, connus notamment pour leur collaboration dans la création des textes des opéras de Jacques Offenbach, Henri Mellac et Ludovic Alévy. L'action prend place à Séville, en Andalousie. Le brigadier Don José, en dépit de l'existence de sa fiancée Micaela, s'éprend d'une bohémienne, Carmen la cigarière. Arrêtée pour avoir défiguré une autre ouvrière de la manufacture de cigares, Carmen est conduite vers la prison par Don José qui, séduit, la laisse s'enfuir. Cette faute lui vaut la geôle dont il refuse de s'évader en dépit de la pièce d'or et de la lime transmise par Carmen. Libéré, Don José, jaloux, doit supporter les coquetteries de la belle envers le torero Escamillo, s'oppose violemment à son propre capitaine, Sunica, qui la courtise ouvertement. Les choses sont allées trop loin. La vengeance de Sunica est à redouter. Don José déserte, s'enfuit avec Carmen pour rejoindre le camp des contrebandiers dans les montagnes. Au camp, les amants se déchirent. Escamillo vient y chercher Carmen. Don José, prévenu par Micaela que sa mère se meurt, doit la quitter après s'être battu avec Escamillo. Le dernier acte, le 4e, réunit les protagonistes à Séville, au pied des arènes de la ville. Carmen s'est donnée à Escamillo. Don José, au désespoir, la supplie en vain de lui revenir. Dans un geste de défi, Carmen lui jette la bague autrefois offerte en gage d'amour partagé. Don José, exaspéré, la tue. L'opéra s'achève sur son arrestation. Les airs fameux de Carmen sont sur toutes les lèvres. Notamment la Habanera, à l'origine un air cubain adapté par Bizet pour une Carmen exaltant l'inconstance des sentiments amoureux, l'amour est un oiseau rebelle à l'acte 1, la Séguedille, un air dont Carmen use pour séduire Don José sur le chemin de la prison, sous les remparts de Séville à l'acte 1, l'air du Toréador chanté par Escamillo, Toréador et songe bien, oui, songe en combattant qu'un œil noir te regarde à l'acte 2, l'air de Don José lors de sa rupture avec Carmen, la fleur que tu m'avais jetée à l'acte 2. Boris Godounov. Le compositeur russe Modeste Moussorgski est né en 1839 dans le village de Karevo, à environ 400 km au sud-est de Saint-Pétersbourg, dans une famille de modestes propriétaires terriens. Sa mère lui dispense ses premières leçons de piano, un instrument dont il acquiert rapidement la maîtrise. Envoyé à Saint-Pétersbourg à l'école des cadets de la garde impériale, il y suit les cours de piano d'Anton Erck, professeur au conservatoire impérial. Il entre dans un régiment d'élite de la garde, le régiment Préobrajensky, mais y demeure peu de temps, préférant se consacrer à la musique. Ce choix est lié à la rencontre des futurs membres du Kouchka, ou groupe des cinq, parmi lesquels Moussorgski lui-même et ses amis Alexander Borodin, Mili Balakirev, César Kouy et Nikolaï Rimsky-Korsakov. Proche du groupe dont il est l'inspirateur, Alexandre Dargomitsky est le chantre d'une musique nationale russe. Moussorgski, à leur contact, s'initie ou approfondit ses connaissances de Beethoven à Glinka, Schumann ou Berlioz. Mais sa situation matérielle est précaire. Depuis sa démission de l'armée, Moussorgski occupe un emploi de fonctionnaire aux ponts et chaussées, mal rémunéré. Il perd successivement son père puis sa mère, se retrouve sans un sou vaillant après l'abolition du servage par le tsar Alexandre II en 1861. Comme nombre de jeunes gens de la garde, Moussorgski y a pris l'habitude de la boisson. Ses difficultés personnelles en font un alcoolique chronique, en dépit de l'amitié profonde du groupe des cinq, son refuge musical. En 1867, Moussorgski doit quitter l'administration. Jusqu'à la fin de sa vie, il est hébergé chez des amis charitables. Il compose, mais sans parvenir à achever les œuvres entreprises. Salambo, d'après Gustave Flaubert, Le mariage, d'après une nouvelle de Nikolaï Gogol, Œdipe à Athènes, demeurant à l'état d'ébauche, La Kovanchtchina est complétée et terminée par Rimsky-Korsakov, quand Nikolaï Tcherepnine en fait autant de la foire de Sorochinski. Toutefois, le génie de Moussorgski se fait jour dans des créations majeures. Une nuit sur le Mont Chauve en 1867, un poème symphonique, tableau d'une exposition en 1874, splendide suite pour piano, son chef-d'œuvre enfin, Boris Godounov, créé en 1874. Miné par l'alcool, les crises d'épilepsie et de délirium très mince, il succombe lors de l'une de ces dernières en 1881. Bien avant d'être une œuvre littéraire ou musicale, Boris Godounov est un personnage historique, le tsar Boris Fédorovitch Godounov. Au service d'Ivan IV le Terrible, Boris exerce la régence pour son fils Fédor Ier, un faible d'esprit dont il est le beau-frère. La situation se complique quand en 1591, le demi-frère et héritier de Fédor Ier, le tsarévitch Dimitri, meurt. Les opposants à Boris l'accusent de l'avoir fait assassiner. Désormais, nul parent proche ne peut succéder à Fédor Ier, qui décède à son tour en 1598. Boris Godounov réunit un Zemski Sobor, une assemblée de trois ordres qui l'élit tsar. Son règne s'achève dans la tragédie, car en 1604, le moine défroqué Grégory Otrépied prétend être le tsarévitch Dimitri, miraculeusement rescapé de la tentative de meurtre commanditée par Boris et seul véritable tsar de Russie. L'imposteur obtient le soutien militaire du roi de Pologne, mais en janvier 1605, les troupes russes les écrasent. Boris Godounov meurt peu après, en avril 1605, dans des circonstances mystérieuses. Sa veuve et son fils sont mis à mort. Le faux Dimitri parvient au trône en juillet 1605 sous le nom de Dimitri II. Son règne est bref, il est mis en pièces en mai 1606. Un épisode aussi romanesque, entouré d'épais mystères et de rebondissements inattendus, inspire une pièce à Alexandre Pouchkine en 1831 et un opéra à Modeste Moussorgski en 1874. C'est d'ailleurs d'après Pouchkine que Moussorgski réalise lui-même le livret de cet opéra en un prologue et quatre actes, achevé en 1869, puis revu en 1872. Après avoir essuyé un refus du directeur des théâtres impériaux, l'œuvre remaniée est finalement donnée au début de 1874, mais l'accueil du public et des critiques est décevant, plongeant l'auteur de nouveau dans l'alcoolisme et la dépression. Le prologue, composé plusieurs années avant les actes, met en scène Boris Godounov. Après avoir fait assassiner l'héritier légitime Dimitri, il organise un stratagème. Une foule aux ordres le supplie d'accepter la couronne. Il feint de refuser, puis accepte. Toutefois, juste avant le couronnement, une appréhension à l'égard de l'avenir l'étreint. La scène suivante est au monastère de Tchoudov. Dans leur cellule, les moines Pimen, homme mûr, et Grigori, jeune homme, évoquent l'assassinat de Dimitri. Grigori menace le tsar Boris de sa vengeance. Il quitte les lieux décidé à se proclamer comme le vrai Dimitri, mais échappe de peu à une arrestation dans une auberge proche de la frontière lituanienne. Dans son palais, Boris s'entretient avec sa fille Xenia et son fils Féodor. Il conseille à ce dernier de se méfier des puissants, dont le prince Chouïski. Complice de Boris dans l'exécution de Dimitri, ce dernier est reçu en audience, annonce l'existence du prétendant, suggère qu'après sa mort, le visage de Dimitri serait demeuré sans altération plusieurs jours. Boris le chasse, mais désormais, le visage du prince assassiné le hante. Au château de Sandomir, en Pologne, le faux Dimitri reçoit un soutien enthousiaste. Les Polonais le manœuvrent pour affaiblir la Russie. De son côté, la princesse polonaise Marina est manipulée par le jésuite Rangoni. Elle doit manifester sa froideur à Dimitri, dont elle partage pourtant l'amour, afin de l'obliger non seulement à chasser Boris du trône et prendre sa place, mais ensuite imposer le catholicisme à l'orthodoxe Russie. Marina cède, Dimitri promet. L'intrigue s'achève à Moscou. Un simple d'esprit qui a insulté Boris en lui rappelant le meurtre de Dimitri est cependant gracié par le tsar. Refusant de prier pour son salut, il déplore l'avenir sombre du pays. Boris convoque l'assemblée des notables au Kremlin, fait condamner à mort le faux Dimitri. Le prince Chouïski évoque le spectre de Dimitri. De saisissement, Boris fait une première attaque. Puis le moine Pimène relate un miracle survenu sur la tombe de ce même tsarévitch Dimitri. C'en est trop pour Boris, qui demande le skima, l'habit de moine traditionnellement revêtu par le tsar au moment de sa mort. Il confie le trône à son fils et trépasse. L'ultime scène voit le faux Dimitri en route pour devenir tsar, mais les litanies chantées en latin par les prêtres catholiques qui l'accompagnent augurent mal de l'avenir. Le simple d'esprit pleure de nouveau le destin tragique de la Russie. Lors de sa création en 1874, Boris Godounov bénéficie d'une incarnation du rôle-titre éblouissante en la personne de l'abbas Fiodor Ivanovitch Tchaliapine. Ce dernier donne l'intensité dramatique voulue à plusieurs airs et monologues. « Mon âme est triste, j'ai atteint le pouvoir suprême. Adieu mon fils, je meurs. » L'opéra est régulièrement scandé par des chœurs acclamant le couronnement. « Longue vie au tsar Boris, jeune polonaise, vers la Vistule, le chant final. Coulez, coulez, larmes amères, » annoncent les soubresauts à venir dans une Russie déjà largement malmenée. Wojciech. Le compositeur Alban Maria Johannesberg est né à Vienne, en Autriche, en 1885, où il passe l'essentiel de son existence dans une famille bourgeoise. Après avoir manifesté de l'intérêt pour la littérature, le jeune homme se tourne vers la musique. Il suit l'enseignement d'Arnold Schönberg, tout comme Anton Webern. Ils forment ensemble sensiblement entre 1903 et 1925 l'école de Vienne, qui promeut l'atonalité ou musique sans clé, ou ton principal, et le dodécaphonisme fondé à la fois sur la tonalité et l'emploi des 12 sons de la gamme sans en privilégier aucun. Chacun est joué aussi fréquemment que les autres, d'où le nom de musique sérielle, celle qui reprend une série de tons. Encouragé par Schönberg, Alban Berg donne 7 leaders de jeunesse, puis une première sonate pour piano entre 1907 et 1908, tout en enseignant à son tour. En 1911, Alban Berg épouse une riche héritière, Hélène Naowski. Le couple, à l'abri du besoin, fréquente le tout Vienne intellectuel et artistique, notamment le peintre Gustav Klimt, âme de la sécession de Vienne, un groupe qui refuse de se plier à l'académisme pictural alors en faveur. Pendant la Première Guerre mondiale, il est employé au ministère de la guerre, ce qui ne l'empêche pas d'ébaucher son futur premier opéra, Wojciech. L'ouvrage est achevé en 1922, mais il faut attendre encore 3 années avant sa création publique à Berlin en 1925. Alban Berg réalise encore les 2 premiers actes d'un second opéra, Loulou, donnant des indications pour le 3e et dernier acte dont le compositeur autrichien Friedrich Serra use pour l'achever, avec une première à Paris en 1979. À sa mort, en 1935, Alban Berg laisse également une suite lyrique créée en 1926 et un concerto de chambre pour violon, piano et 13 instruments à vent créés entre 1923 et 1925. Un concerto à la mémoire d'un ange, créé en 1935, qui est un hommage à Manon, la fille que vient de perdre son amie Alma Mahler. Opéra en trois actes, Wojciech en 1925 s'inspire pour le livret de Wojciech, pièce inachevée de Jörg Büchner, mort à 23 ans du typhus, terminée à partir de ses fragments par Karl-Emil Franzos. Alban Berg assiste transporté à la première de la pièce au printemps 1914 à Vienne. Le sujet l'emplit et déjà il veut lui donner une forme musicale. Frank Wojciech, un ancien soldat devenu barbier, a eu un fils de Marie, une ancienne prostituée. Victime d'hallucinations, le cas clinique de Wojciech est instrumentalisé pour sa propre étude médicale par un médecin qui en espère la gloire. L'acte 1 s'ouvre sur une scène de barbier. Wojciech rase le capitaine qui lui reproche sa vie immorale. Wojciech invoque les nécessités impitoyables de la pauvreté. Marie, de son côté, n'est pas insensible au charme militaire des soldats qui paradent. Wojciech a une crise hallucinatoire. À l'acte 2, la jalousie de Wojciech est suscitée par le docteur et le capitaine. Marie s'est laissée courtiser par un tambour-major. Accusée, elle refuse de nier et manque d'être frappée par Wojciech. Lors d'un bal, il les voit danser ensemble et projette de se venger. Le drame se noue à l'acte 3. Marie, influencée par la lecture de la Bible, est en pleurs. Elle implore le pardon. Wojciech l'entraîne dans les bois et, lorsque paraît une lune rouge, l'égorge. Entré dans une taverne, ses vêtements tachés de sang y sont remarqués. Il retourne sur le lieu du crime, jette le corps de Marie dans un étang, puis son couteau. De crainte de ne pas l'avoir jeté assez loin, il entre à son tour dans l'étang. Le reflet rouge de la lune sur les eaux lui fait croire à un bain de sang. Il avance de plus en plus loin et se noie. Le capitaine et le docteur assistent à la noyade et s'enfuient. Le lendemain, des enfants jouent, puis, apprenant que le corps de Marie vient d'être trouvé, se précipitent sur les lieux. Après un instant d'hésitation, le propre fils de Marie et de Wojciech, qui est du nombre, se décide à les suivre. Drame réaliste, Wojciech donne lieu à plusieurs airs remarquables. À l'acte 1, le capitaine reçoit de Wojciech une leçon d'humanité. « Lasset declinen zu mir kommen »« Laissez venir à moi les petits-enfants » d'après l'évangile de Marc. Toutefois, il ne faut pas voir en Wojciech, anti-héros par excellence, un personnage courant de l'opéra, pas plus que Berg ne suit la forme habituelle, alternant air et récitatif. Les modes d'expression vocale y sont extrêmement divers, dialogue, Sprechgesang ou déclamation poétique, à mi-chemin entre la déclamation parlée et le chant, air, chant lyrique, onomatopée, grognement.